Que le Seigneur soit béni pour ces moments. Nous allons commencer avec une première lecture qui nous parle de l'état de notre cœur. Nous choisissons en vérité quel sera l'état de notre cœur. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, il est parlé de cette fameuse parabole du semeur et des terrains. Alors des fois on nous pose la question, mais cette parabole, elle est pour les païens ou pour les chrétiens? Alors en vérité, cette parole est pour tout le monde. Ça parle de l'état du cœur. Un chrétien peut avoir un cœur dur, oui ou non? De la même manière qu'un païen peut se disposer à avoir un cœur tendre. Donc c'est un choix que l'on fait. Que l'on soit dans les ténèbres, on peut choisir d'avoir un cœur qui s'attendrit, de la même manière qu'un chrétien peut faire le choix eh bien, d'avoir un cœur qui s'endurcit ou qui se remplit d'épines à cause des soucis, etc. Ce qui nous intéresse, c'est le dernier terrain dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, et au verset 15. Il est parlé du cœur qui plaît à Dieu, bien sûr. C'est un peu ce qu'on vient de chanter. Luc, chapitre 8, verset 15. « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » La bonne terre, c'est un cœur qui effectivement a été labouré. À partir de ce moment-là, eh bien, la semence, lorsqu'elle est jetée, peut coller à la terre et s'enraciner dans la terre. Je pense qu'au milieu de nous, beaucoup n'ont pas vécu à la campagne. Qui a vécu à la campagne ici? Qui a vécu à la campagne? Qui a vécu avec des paysans? Ouais. Ça vous fait rire? C'est extraordinaire. Moi, je sais de quoi. On n'est pas nombreux, vous voyez. On n'est pas nombreux, mais ceux qui ont vécu à la campagne comprennent ces choses. Mais il y a un cœur qui plaît à Dieu. C'est un cœur honnête, c'est un cœur qui est vrai, un cœur qui veut entendre ce que Dieu a à lui dire. Il ne discute pas, il n'est pas tout le temps en train de couper, comme on dit, les cheveux en quatre, tout le temps en train de dire « oui, mais est-ce que Dieu a vraiment dit ?» etc., etc. Il y a des cœurs qui sont bons. Ils retiennent la parole, ils la retiennent. C'est une condition. C'est pour ça que ne pas prendre des notes ou ne pas réécouter l'enseignement vous sera défavorable. C'est important de dire, tiens, je vais prendre un dictionnaire, je vais regarder qu'est-ce que c'est cette bonté dans la Bible, qu'est-ce que c'est cette honnêteté, le verbe retenir, qu'est-ce qu'il enseigne. Moi, je travaille avec un dictionnaire. Presque tous les jours, je travaille avec un dictionnaire. Pour voir exactement la signification des mots, et je peux vous assurer que ça m'aide à préparer mes exhortations. Le deuxième texte, c'est dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, de Pierre, et à partir du verset 3, il y a une parole qui nous enseigne que nous pouvons participer à la nature divine. Ça, c'est presque incroyable, l'homme peut participer aux choses de Dieu. C'est Pierre qui écrit cela. De Pierre, chapitre 1er, verset 2, et nous lirons jusqu'au verset 13. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements dans ce texte et je vous encouragerai à le méditer chez vous. Vous comprenez bien qu'on ne va pas pouvoir le disséquer en quelques minutes. De Pierre, chapitre 1er, c'est Simon qui a beaucoup appris depuis qu'il a été baptisé du Saint-Esprit. La preuve, c'est que Dieu l'inspire pour rédiger des lettres. De Pierre, chapitre 1er, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliés. Ça vous intéresse, ça? Vous avez la grâce, vous avez la paix, et bien Dieu dit, et bien moi je vais la multiplier. Ça vous plaît? Oui, c'est la volonté de Dieu. Comment? Par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. La paix, la grâce ne sont pas multipliées n'importe comment. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Regardez bien les conséquences. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Car, si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Vous voyez, il y a des choses quand même qui sont importantes à méditer. Je ne sais pas si vous réalisez le verset 10. Le fait de s'appliquer à affermir la vocation et l'élection fera que nous ne broncherons jamais. Tiens, est-ce que quelqu'un pourrait répondre à la question, c'est quoi affermir la vocation et affermir l'élection? Pardon? Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est affermir la vocation et affermir l'élection? C'est quoi l'élection? C'est quoi la vocation? Vous voyez? Est-ce que ça vous intéresse de ne jamais broncher? Est-ce que ça vous intéresse? Eh oui. Vous savez, quand Jésus dit, afin de paraître debout, quand viendra le Fils de l'homme, l'élection, c'est tout ce à quoi nous sommes appelés à faire. Qu'est-ce que je suis appelé à faire? Et notre vocat. Et ça, c'est l'élection, c'est la position. Ce que je suis en Jésus-Christ, ma position d'enfant de Dieu, j'ai été élu, je suis un fils de Dieu, je travaille ce salut. Et puis après, la vocation, c'est tout ce à quoi je suis appelé à faire. Vous voyez, ça vaut la peine d'y réfléchir. Et de regarder dans la Bible chaque fois qu'on est appelé à faire quelque chose, de le faire. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Vous voyez, on peut savoir des choses et c'est important de les réentendre. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Donc, ce texte nous dit quoi? Eh bien, que Dieu veut que nous participions à la nature divine. Je suis ce soir dans un temple, je suis ce soir dans une assemblée, bien. Je viens de participer à la réunion de prière, c'est déjà une introduction dans la vie de l'Église. Je suis là, je dis Amen aux prières de mes frères et de mes sœurs. J'ai déjà intégré ce travail spirituel dans lequel Dieu veut que je sois. Ça nécessite, vous avez vu au verset 5, des efforts. Mais avant de faire les efforts, soyons honnêtes. On a parlé de ce texte d'être honnête. Avant de faire des efforts, je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous êtes prêt à y répondre? Pas haute voix, répondez à vous-même et surtout répondez au Seigneur. Est-ce que vous voulez aller jusqu'au bout avec le Seigneur? Est-ce que c'est important pour vous d'aller jusqu'au bout? Vous savez, sur 10 chrétiens qui prennent le baptême, d'après vous, combien il y en a qui, au bout de 2 ou 3 ans, sont toujours fidèles? Sur 10 chrétiens? À peu près, ouais. Les statistiques sont graves. Partout à peu près sur la terre, dans tous les pays, sur 10 chrétiens, il y en a 3 qui sont fidèles quelques années après. Ça vous montre que les gens n'ont pas tenu, et ils croient pour un temps, comme dit Jésus, et dès que survient une épreuve, une tribulation, à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. C'est pour ça qu'il faut répondre à cette question. Est-ce que je veux aller jusqu'au bout? Est-ce que je me soucie vraiment de la volonté du Seigneur? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous? Ou est-ce que d'aller à l'église, ça résume uniquement la volonté du Seigneur? Je vais à l'église, donc bon, je dois être dans la volonté du Seigneur. Je chante, je prends le pain et le vin, je participe à une réunion de prière. Je suis dans la volonté du Seigneur. Est-ce que la volonté du Seigneur se résume à cela? Bien sûr que non. C'est beaucoup plus sérieux que cela. C'est avoir cette conviction profonde que je fais ce que Dieu me demande, que je vis ce que Dieu veut que je vive. Voilà. Est-ce que je me soucie vraiment de la volonté de Dieu? Qu'est-ce que c'est que cette affaire de participer à la nature divine? Qu'est-ce que c'est que cette grâce et que cette paix me soit multipliée? Il y a des gens, vous parlez avec eux, notre sœur Madame Bourdel, tout à l'heure dans la prière, parlait de ces chrétiens qui, dans l'assemblée, n'ont perdu le repos, ils ont perdu la paix. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils n'ont pas veillé. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire pour Dieu? C'est une question que je peux nous poser. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je fais pour le Seigneur? Est-ce que je crois que si les choses ne vont pas, le Seigneur peut m'aider? Vous répondez à cette question? Si ça ne va pas, est-ce que Dieu peut m'aider? Et bien sûr que oui. Alors on va lire une histoire qui complète ce que nous avons abordé mardi. Dans Deux Rois au chapitre 6, vous connaissez cette affaire, voilà. Il y avait un endroit trop étroit. L'endroit où ils se trouvaient était trop étroit, donc ils se sont dit, il faut qu'on connaisse davantage le Seigneur, il faut qu'on construise un local plus grand. Est-ce que c'était une bonne idée? Ben oui. Et ils se sont tous mis au travail. Ça, c'est des choses qui plaisent au Seigneur. De Rois, chapitre 6, verset 1er. J'ai pris cette histoire parce que j'ai parlé dimanche de la cognée qui était mise à la racine des arbres et qu'il fallait mieux s'occuper des racines que de s'occuper des branches qui poussaient. Parce que quand on les coupe, les branches, qu'est-ce qu'elles font ? Elles repoussent. De Rois, chapitre 6, nous allons lire les 7 premiers versets et nous allons en tirer un enseignement pour, eh bien, retrouver ce qu'on a perdu. Car c'est ce que Dieu veut. Le diable, c'est un voleur. Vous le savez que c'est un voleur, le diable ? C'est un voleur, le diable. C'est vraiment le spécialiste du vol. Jésus dit, s'il est là pour tuer, pour égorger, dévorer, c'est l'accusateur des frères. Le diable, c'est vraiment un voleur. Deux Rois, chapitre 6. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. » Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait avec une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé ? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Et il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Et tout le monde dit, amen. Ben ouais, quelle expérience. Quelle bénédiction. Vous vous rendez compte, quelle grâce de réaliser encore ce soir que le royaume de Dieu est le royaume aussi du surnaturel. C'est important, ça. Il y a des chrétiens qui n'y croient plus. Il y a des chrétiens qui, dans nos églises, qui n'y croient plus. Il y a des églises qui n'y croient plus. Il y a des dénominations qui ne croient plus au surnaturel. Écoutez-moi bien. Si vous êtes chrétien, vous devez croire et vivre dans cette conviction que le surnaturel existe toujours. Alléluia. C'est important que vous puissiez avoir cette conviction. Dieu a écrit sa parole pour que nous puissions revivre et refaire ces expériences, même s'il y a des choses qui doivent changer. Là, ils étaient dans un moment, les choses devaient changer. Ils étaient à l'étroit. Il leur fallait quelque chose de plus grand. Ils ont été au Jourdain. Le Jourdain, c'est tout le temps dans la Bible un lieu de changement. Ça représente la mort à soi-même. Ça représente toujours quelque chose qui doit changer. On doit changer. Est-ce que vous éprouvez le besoin de changer encore ? Est-ce que vous dites, oui, je veux faire des progrès, oui, je veux aller de l'avant, vous éprouvez, c'est bon ? Bon, c'est bien. C'est un lieu tout le temps qui évoque la mort à soi-même, par exemple. Je suis un égoïste, eh bien, le Jourdain va m'amener à devenir altruiste, vous voyez, etc. Je suis paresseux, eh bien, je vais devenir utile, et donc je vais apprendre à servir le Seigneur. Le Jourdain, ça présente toujours, quand vous voyez dans la Bible, lorsqu'on est arrivé au Jourdain, il y a eu une nouvelle étape. Chaque disciple donc devait faire quelque chose. C'est exactement ce que nous devons comprendre. Car même si nous voulons faire une expérience au niveau du surnaturel, vous savez, moi je parle rarement du surnaturel dans le sens du surnaturel, pour le surnaturel. Mais n'oublions pas que Dieu a le pouvoir de faire marcher les gens sur l'eau, on l'a entendu dans la prophétie, Dieu a le pouvoir de nous faire faire des expériences extraordinaires. Et mes frères et sœurs, je crois que cette soirée, Dieu l'a voulu ainsi. Donc, chacun devait faire quelque chose, chacun devait participer. Si vous êtes dans le royaume de Dieu, vous avez trouvé une église, c'est obligé. C'est obligé. Si vous êtes dans le royaume de Dieu sans avoir une église locale, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme un enfant qui est dans une famille, mais qui ne connaît pas sa famille, qui n'aime pas sa famille, qui fuit sa famille. Il y a quelque chose qui ne va pas. On peut dire, oui, il est de la famille de monsieur un tel, mais il ne vit pas dans cette famille. Et je crois qu'on a tout à gagner à travailler dans une église. Je bâtirai mon église. On a besoin d'une église. Et si vous faites partie, je pense pas à vous ici, à ceux qui m'écoutent sur Internet, je pense à tous ceux, si vous n'avez pas de vie d'église, moi je vous conseille de vous mettre à genoux, de prier et de vous montrer quelle est l'église dans laquelle Dieu veut que vous alliez. C'est archi important. Chacun doit avoir quelque chose à faire dans le royaume de Dieu. C'est comme ça que ça marche. Chacun a sa place, de la même manière que dans le corps, même le plus petit organe, la plus petite phalange a sa place dans le corps. Ils se sont mis au travail et vous avez vu ce qui s'est passé. Alors, moi, j'ai souvent manié des haches quand j'étais petit, parce que mon père me faisait travailler. Et si vous avez manié des outils, vous savez très bien quand une manche commence à se déhancher. Ça se sent vite, très vite. Même une grosse hache, même une, n'importe quel outil, une masse, un marteau, n'importe quoi. Ça prouve qu'il y a eu de la négligence. À moins que ce soit la première fois qu'il s'en servait, c'est possible. Mais une chose est sûre, quand vous maniez un outil, vous sentez quand il se déchausse, vous le chantez. Donc, il y a de la négligence, il faut veiller à cela. C'est pour ça qu'on a des réunions comme celle de ce soir, où on veille sur son âme, on veille aussi les uns sur les autres. C'est bien de veiller les uns sur les autres. Oui ou non ? On a ce devoir, lorsque la réunion est finie, ou avant que la réunion ne commence, de se faire du bien les uns les autres, de s'encourager les uns les autres. C'est important de se faire du bien les uns les autres. Venez en ayant reçu chez vous, ne venez pas que pour recevoir. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Vous venez pour recevoir ou vous venez aussi pour donner ? Les deux, bien sûr, ça c'est l'idéal. Mais franchement, soyons honnêtes, vous venez pour donner ou vous venez que pour recevoir ? S'il y a les deux, c'est bien. Franchement, c'est bien. Si vous venez pour continuer à recevoir, c'est une preuve d'humilité. Et si vous venez pour donner, c'est la preuve que vous entretenez votre communion avec Dieu et que vous avez cette capacité de faire du bien aux autres. Ça, c'est une bénédiction. Donc, cette histoire nous montre que si on ne fait pas attention, il va arriver un moment donné où on ne peut pas travailler. On ne peut plus travailler. Mais cet homme, qu'est-ce qu'il a été ? Il a été honnête. Quelque chose s'est cassé, mais lui, il a été de suite, il a été honnête. Je parlais dimanche de ceux qui feraient, semblant de continuer à taper sur l'arbre pour pas avouer qu'ils ont perdu le fer. Et il y a des gens comme ça, ils font semblant de continuer à servir Dieu alors qu'ils ont perdu cette ferveur, cette vigueur, cette grâce de Dieu. Nous devons comprendre les attitudes des hommes dans la Bible ou des femmes, quel comportement ils ont eu. Cet homme, il se sentait responsable. Vous voyez, de suite, oh, il était emprunté, de suite il a réagi, il n'a pas joué la comédie. Mes frères et sœurs, ce qui est important avec Dieu, c'est d'être honnête. Premièrement, notre vie, elle ne nous appartient pas, vous le savez. Votre voiture vous appartient, vous avez acheté un appartement, il est à vous, c'est sûr, c'est à vous, vos habits sont à vous, etc. Mais notre vie ne nous appartient pas. Et cet homme qui perd le fer représente ce que nous sommes responsables. Quand on est chrétien, bien sûr que quand on est chrétien, on est un enfant du Seigneur. On aime le rappeler dans nos cantiques. Est-ce qu'on aime chanter que nous sommes des enfants du Seigneur ? Vous aimez chanter que vous êtes des enfants du Seigneur ? Bien sûr, c'est bien. Ça fait du bien de se rappeler dans les cantiques que nous sommes les fils du Seigneur. C'est beau les cantiques quand même. Mais il ne faut pas oublier que si nous sommes des enfants du Seigneur, avec les droits à la bénédiction, les droits à la grâce, etc., à la paix que Dieu veut multiplier, en même temps, nous sommes responsables. Un disciple, c'est quelqu'un de responsable. C'est quelqu'un qui a reçu un talent. Je l'ai expliqué plusieurs fois. Mais il y a une grande différence entre cet homme qui perd le fer de la hache, qui est responsable, qui est honnête, et puis avec ceux qui enfouissent le talent. Vous connaissez la parabole des talents, et vous voyez cette affaire, on peut les mettre en balance, et c'est deux affaires complètement différentes. L'un est responsable et de suite, il réagit avec un cœur honnête, ce qui fait que Dieu va pouvoir l'aider, parce que c'est une chose dans l'Église, ça n'est une autre que d'accepter de l'aide. Ça n'est une autre qu'un berger vous conduise près des eaux paisibles, qu'un berger vous conduise près des verts pâturages, et ça n'est une autre que nous de se mettre à boire et de se mettre à manger. Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à manger ? Non. Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à boire ? Non. C'est à chacun de nous de saisir et de un berger, moi je sais que souvent il y a des chrétiens qui disent « Monsieur Gou, parce que des fois on est malheureux quand on voit des chrétiens qui ne vont pas bien, des chrétiens qui arrivent à jamais rentrer dans le repos, et des fois ça nous attriste. » Moi, combien de chrétiens me disent « Monsieur Gou, ce n'est pas votre faute. Vous pouvez amener les brebis dans le meilleur pâturage, près des eaux paisibles. Si la personne ne veut pas boire, elle ne boira pas. » Et c'est vrai qu'on est responsable. Donc Jésus a utilisé des paraboles, des histoires comme celle-ci justement, pour que nous comprenions. Celui qui a enfoui le talent, il n'était pas obligé, mais il l'a fait. Il a choisi d'enterrer le talent. Alors là, il représente ceux qui négligent leur responsabilité. Il représente ceux qui vont avoir de sérieux problèmes avec Dieu. Ceux qui vont avoir de sérieux problèmes lorsqu'ils seront confrontés aux besoins de devoir rendre compte. La Bible dit qu'ils seront punis. Mais il y a une grande différence entre celui qui enfouit le talent volontairement et celui qui, en plein travail, perd son fer et qui, et honnêtement, demande de l'aide. On ne peut presque rien faire pour quelqu'un qui enfouit le talent. Il n'y a que prier. Tout à l'heure, vous l'avez fait avec cœur, de prier pour des fils prodigues, de prier pour des rétrogrades, de prier pour des pécheurs. Vous ne pouvez pas le faire. Il n'y a que Dieu qui peut convaincre de péché. Ne vous imaginez pas un instant que vous pouvez convaincre quelqu'un de péché. La seule chose que vous puissiez faire, c'est prier et rendre un bon témoignage pour ne pas éloigner la personne de Dieu. Quelqu'un qui a enterré le talent, on ne peut rien faire. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à être motivé. Même si vous prêchiez 2 heures, 3 heures, 4 heures à quelqu'un sur l'importance d'être motivé, mais motive-toi, bouge-toi, fais ceci, fais cela, est-ce que ça va marcher? Non, ça ne marche pas. Dieu peut utiliser une parole d'exhortation pour travailler quelqu'un, mais qui veut absolument être motivé. Bon, cet homme-là, il a perdu le fer de la hache, mais il veut de l'aide. Alléluia. Et ce soir, vous ne vous en rendez pas compte à quel point vous êtes béni si vous dites au Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi, montre-moi ce que je dois faire. Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, il y a plein de chrétiens qui ne sont pas conscients des problèmes, qui ne demandent jamais de l'aide. Mais quand Dieu, par des histoires comme celle-ci, nous amène à dire, mais Seigneur, tu vas m'aider, est-ce que Dieu va nous aider? Oui. Est-ce que c'est écrit quelque part dans la Bible? Le Seigneur est notre aide. Où c'est écrit? Hébreux 13. On va le lire ce verset. J'aime beaucoup ce verset. Je le lis souvent. Pourquoi? Parce que c'est la réalité. C'est ça être honnête. Voyez, Hébreux chapitre 13. Vous auriez dû citer le verset, Michael. Et un autre aussi, j'aurais dû le citer. Un autre qui n'est pas très loin de moi d'ailleurs. Hébreux 13, c'est important. Mais c'est ça être honnête. Dieu va m'aider. Vous le croyez, ça, frères et sœurs? C'est ça l'honnêteté. Oh, je ne comprends pas, je n'arrive pas. Oui, ben, oui, parce que vous n'essayez pas, parce que vous ne demandez pas, ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui demande de l'aide, Dieu l'aidera. Dieu n'est pas un menteur. Hébreux chapitre 13, verset 5. En vérité, c'est la deuxième partie. La première partie, on peut la lire quand même. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit. Car Dieu lui-même a dit, c'est pas moi, c'est Dieu qui l'a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Donc, voyez, c'est ça l'honnêteté. Le Seigneur, il va m'aider. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah oui, mais Dieu a aidé Josué, Dieu a aidé Caleb, Dieu a aidé Moïse, mais moi... C'est pas écrit pour moi. Eh bien, écoutez, si c'est écrit, le Seigneur est mon aide. Donc, ce soir, vous dites, oui, si vous avez enfoui votre talent, eh bien, bougez-vous vraiment et remuez-vous, ressaisissez-vous, réveillez-vous et dites, il faut absolument que je retrouve ce talent que j'ai enfoui. Je ne sais pas trop où je l'ai enfoui, mais Seigneur, tu vas m'aider. Mais si vous l'avez perdu là, dernièrement, si vous êtes tombé dans la négligence, vous pouvez demander de l'aide. Et cet homme, il représente les gens qui demandent de l'aide. Gloire à Dieu. Alors, est-ce que ce soir, il y a quelqu'un qui peut dire, Seigneur, aide-moi, je veux faire une expérience avec toi. Alors, cette expérience, vous avez vu comment elle se situe. C'est un acte de foi, oui, dans l'obéissance. Cet homme, vous avez vu comment ça se passe? Il lui pose la question, où est-il tombé? Où est-il tombé? Est-ce que ça avait vraiment de l'importance, au fait? Pour Dieu, c'est-à-dire au niveau du miracle, est-ce que ça avait de l'importance? Que le fer, il monte droit ou qu'il monte de travers, est-ce que ça changeait grand-chose pour que Dieu le fasse remonter? Dites-moi. Mais non. Mais il y a cette honnêteté. Mais où est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que je suis tombé dans la... Parce qu'il y a des épreuves dans la vie. On est des enfants de Dieu, c'est clair, mais on est éprouvé. Quand est-ce que je me suis découragé? qu'est-ce que c'est qui m'a amené au découragement? Qu'est-ce que c'est qui m'a amené à cette négligence? Je vous assure, le gars qui a tombé le fer, il aurait pu dire, mais il y avait déjà un quart d'heure que je le savais bien, que ça commençait à trentoler ce truc, je le savais. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est de dire où ça s'est passé. Comme dans l'Apocalypse, dans l'église d'Éphèse, Jésus dit à cette église, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et qu'est-ce qu'il lui demande après? Repens-toi. Oui, ça a commencé là. J'ai eu un problème avec un frère. Et on ne s'est pas demandé pardon. Je pensais que ça allait passer. Je pensais que ce n'était pas grave. Mais en fin de compte, ça a généré des racines. C'est écrit dans la Bible que si on a de l'amertume, ça peut générer des racines d'amertume. C'est écrit, oui, dans l'Épître aux Hébreux, justement. Que les racines, ça, qu'est-ce que ça produit, les racines? On va le lire. Regardez avec moi. C'est important de le lire. Parce qu'il y a des gens, ils ne voient pas, on parlait du surnaturel. Mais dans le surnaturel, il y a ce qui est merveilleux. Mais dans le surnaturel, il y a ce qui est diabolique aussi. Est-ce que vous le comprenez? Eh oui, il y a le surnaturel. C'est merveilleux, le surnaturel de Dieu, de faire surnager un fer. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a un autre qui s'occupe aussi de provoquer des conflits. Regardez, Hébreux chapitre 12. En plus, c'est au verset 15, il y a un verbe qui indique un danger. À partir du moment où il y a écrit « prenez garde » ou « veillez », ça signifie qu'il y a un danger. Vous êtes d'accord? Hébreux chapitre 12, verset 15. « Veillez ». Voyez ? Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. C'est un peu ce que je fais ce soir. Je vous aide à faire attention, ne pas vous priver de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise quoi? Du trouble. Oui, le trouble, on peut dire, oh, c'est pas grave, un peu de trouble, ça va pas m'empêcher de conduire. S'il y a du brouillard sur la pare-brise, ça va pas m'empêcher d'avancer. Oui, mais ça peut aller plus loin. Ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Comme quoi, voyez, notre affection peut affecter les autres. Est-ce que vous le savez que quand vous êtes négatif, vous pouvez produire du négatif sur les autres? Vous voyez, c'est important, il faut y veiller. Vous voyez? Après, vous voyez point virgule. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane. Vous voyez, ça commence avec un peu de trouble, une petite racine, et ça finit par profaner, c'est-à-dire mépriser vraiment. Mépriser la bénédiction du Seigneur. Donc, mais voyons, mes frères et sœurs, soyons soucieux de ces choses-là. Notre Dieu, il n'a pas changé. Et je vous rappelle ce que j'ai dit en introduction, le surnaturel doit toujours exister. Humainement, c'était fichu, à part d'avoir un scaphandrier à l'époque où on homme grenouille, mais c'était fichu. Et humainement, peut-être, mais ça fait trop, il y a eu si... Mes frères et sœurs, ces histoires, elles sont là. Elles sont sérieuses, ces histoires. Nous avons un Dieu tout-puissant. Ce n'est pas qu'un Dieu plein d'amour. C'est important d'être plein d'amour. Mais l'amour ne suffit pas. Vous me suivez? L'amour, c'est pas parce que... Est-ce que parce que vous aimez quelqu'un, vous pouvez tout faire? Eh bien non. Nous, on peut aimer les gens, mais on n'est pas puissant. Tout-puissant. Mais Dieu, il est plein d'amour et il est tout-puissant. Ça veut dire qu'il nous aime, mais il va pouvoir, lui, le faire. Et c'est ça le but de nos réunions, c'est de dire, on vient servir, gloire à Dieu. Je viens prier, je viens intercéder, je viens joindre ma prière à celle des frères et sœurs, parce que la maison du Seigneur est une maison de prière. Mais notre Dieu est toujours le même, Jésus ne change pas. Il faut reconnaître tout simplement, avec honnêteté, l'endroit où j'ai commencé à perdre ce que Dieu m'avait donné. Je me suis disputé, mais je vais aller voir le frère, je demande pardon. C'est ça. Et Dieu va faire le miracle. Gloire à Dieu. Vous ne voulez pas que Dieu fasse un miracle dans votre vie? Vous savez, ce n'est pas mon sujet de prédilection, c'est les miracles. Mais quand même, on ne peut pas ne pas en parler. Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu de délivrance. Dieu est un Dieu de guérison. Dieu peut faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Dieu peut faire ce qu'un homme ne peut faire. Vous vous rendez compte, quand Josué est arrivé dans la vallée, vous savez, qui combattait contre les Gabaonites, il n'a pas trouvé mieux de faire quelque chose que moi, j'aurais peut-être pas pensé à faire, vous voyez. Vous savez ce qu'il a demandé? Vous savez ce qu'il a demandé, Josué, quand il a combattu les Gabaonites? Il a juste demandé que le soleil s'arrête. Et le soleil s'est arrêté. Est-ce que c'est possible humainement? C'est impossible. La Terre s'arrête de tourner une seconde, il n'y a plus rien sur la Terre. Tout est détruit. Tout est dévasté. Pire que si, comme s'il y avait une bombe atomique tous les 50 mètres. Et Dieu est tout-puissant. Et Josué, il voulait faire la volonté de Dieu. Et il faut savoir demander. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Seigneur, on va demander. On va demander. Et Jésus l'a dit, demandez et vous recevrez. Le Seigneur, il sait ce qu'on demande. Il sait, il le dit. Si quelqu'un demande du pain, il ne va pas donner une pierre. Si quelqu'un demande du poisson, il ne va pas donner un serpent. C'est bien, vous connaissez votre Bible. C'est où ça? Non, Luc 11. C'est pas bien, Madame Guilabert, c'est pas bien. C'est pas grave que vous ne connaissez pas la référence. Mes frères et sœurs, le Seigneur ne se trompe jamais. Alléluia. Et vous devez, nous devons avoir cette même attitude. Je veux être honnête. Le bois, ça représente toujours quoi? La croix. J'avais dit qu'on lirait quatre textes. Le quatrième texte, c'est dans l'Exode au chapitre 15. Il faut que nous comprenions ces choses, mes frères et sœurs. Il faut que nous comprenions que Dieu est un Dieu de miracles. Personne ne dit amen. Mes frères et sœurs, Dieu est un Dieu de miracles. Et il faut que nous le comprenions bien, que les ténèbres s'épaississent, que les jours soient mauvais, que les temps sont difficiles, mais ça ne change rien. Ça change quoi aux yeux de Dieu? Est-ce que ça empêche Dieu d'être puissant? Est-ce que ça empêche Dieu d'honorer la foi? Bien sûr que non, mes frères et sœurs. Dieu est un Dieu de miracles et il sait exactement ce qu'il doit faire. Alors dans Exode au chapitre 15, il y a cette fameuse histoire. Jusqu'au verset 21, tout le monde chante. Tout le monde est content, tout le monde chante. Alléluia, là c'est vraiment l'église de Pentecôte qui est représentée. Exode chapitre 15, ça chante. Gloire à Dieu. Bon, et à partir du verset 22, ça déchante. Exode chapitre 15, verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après trois jours, ouais, ça dure pas longtemps. Hein. Est-ce qu'on peut passer de la bénédiction à une épreuve en quelques jours? En quelques heures? Mais oui, en quelques minutes même. Trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ah, ce Dieu qui ne nous aide pas. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau à Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse. Plus loin, vous le vérifierez, ce n'est pas contre Moïse qui murmurait. En disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Est-ce que Dieu savait qu'ils allaient murmurer? Est-ce que Dieu devait savoir que l'eau était amère? Est-ce que Dieu le savait ou est-ce qu'il ne le savait pas? Je pense qu'il devait savoir. Il a permis. Le Seigneur permet des situations qui sont pénibles. Regardez bien, ce fut là, l'eau devint douce, ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Bon, ça c'est bien. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Dieu nous éprouve toujours. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, etc., etc. Verset 27, ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau, alors je ne vous dis pas l'abondance, et 70 palmiers, ils campèrent là, près de l'eau. Et regardez au verset 4, c'est comme ça. C'est cette confiance extraordinaire que Dieu attend. L'Éternel dit à Moïse, voici je ferai pleuvoir, il se plaignit bien sûr, il murmurait de nouveau, du pain du haut des cieux, le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve. Dieu nous met à l'épreuve. Cet homme-là, il a été mis à l'épreuve. Ce fer de hache, est-ce que Dieu aurait pu empêcher que ce fer tombe de la hache? Bien sûr, Dieu peut tout, mais il permet des situations, il permet des épreuves, il permet des situations qui vont changer du jour au lendemain. Il chante, je peux vous dire que trois jours après, ils sont en colère contre Moïse, mais Dieu va dire, c'est pas contre toi qu'ils sont en colère, c'est contre moi. Et quand on murmure, on peut dire oui, c'est la faute du pasteur, c'est la faute de l'église, c'est la faute du patron, mais en vérité, on ne se rend pas compte qu'on murmure contre Dieu. Alors, le Seigneur, il est toujours le même. Le bois représentera toujours la croix, dont la solution n'est pas compliquée. Il faut que je m'approche du trône de la grâce. Il faut que je m'approche de la croix. Il faut que je revienne au calvaire. Et si vous n'avez pas conscience de ces choses, relisez les évangiles, les derniers chapitres de chaque évangile. Moi, je le fais très souvent. Je les connais presque par cœur. Et pourtant, j'aime relire la fin des évangiles où on voit la mort et la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Moi, c'est des choses extraordinaires. Pourquoi ? Parce que ça me ramène à ce Dieu de miracles. Il est tout puissant, le Seigneur. Et vous devez le croire. Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs ? Est-ce que vous croyez qu'à la croix, il y a toujours la puissance de Dieu ? Eh bien, demandons au Seigneur de nous ramener à ces choses. Ne soyez pas troublés, ne murmurez pas, ne râlez pas, parce que tout d'un coup, il y a des choses amères. Ah, ça ne me plaît pas dans mon foyer, ça m'énerve, ça ne me plaît pas, je ne comprends pas. Non. Seigneur, je te fais confiance. Tu es le Dieu de miracles. Là, le fer est tombé. Là, je suis tombé. C'est pas le fer, c'est moi. Souviens-toi d'où tu es tombé. C'est moi qui suis tombé. C'est mes frères qui me comprennent pas. C'est les chrétiens qui me comprennent pas. J'en ai marre. Vous savez, des caliméros. Il y en a partout, des caliméros. Il y a des gens qu'il faut que se plaignent. Mes frères et sœurs, ne vous plaignez pas. Dites au Seigneur, je te fais confiance. Tu es le Dieu des miracles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, dans son cœur, croit vraiment qu'il est le Dieu des miracles? Il y a quelqu'un qui le croit? Il y a quelqu'un qui dit, mais ça devrait rester au fond. Ce problème, il a coulé, comme la prophétie le rappelait tout à l'heure, quand Pierre a cessé de regarder à Jésus, à regarder, on aurait tous fait pareil, à voilà ces vagues immenses qui déferlaient à côté de lui ou sur lui, il a eu peur. Mes frères et sœurs, il y a un Dieu, le Dieu qui a tout créé. Il a aussi créé le surnaturel. Et nous devons nous approcher de lui de cette manière-là. Il est avec nous. Élisée, il était là. Il était avec eux. Mais croyez-moi, Élisée, il a failli pas y aller. Mais le Seigneur, lui, sera toujours avec nous. Vous le croyez que Jésus est toujours avec nous? Si vous croyez ça, c'est gagné. Si vous croyez que Jésus est toujours avec vous, je peux dire que c'est gagné. Vous pouvez rentrer chez vous, là, dans votre voiture, dit Seigneur, mais je sais que tu es le Dieu du surnaturel. Je me rappelle, moi, quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, on avait été à une réunion chez des frères et sœurs. Et moi, je voulais rentrer à la maison, baptisé du Saint-Esprit. Et j'ai dit, tu rentreras pas à la maison tant que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. On a été à la réunion, on a prié jusqu'à minuit, je ne sais rien. Il fallait rentrer parce que le lendemain, il y avait le travail. Et je n'étais pas baptisé du Saint-Esprit. Je me suis arrêté à 100 mètres de chez moi. J'ai dit, tu resteras dans la voiture et tu vas prier jusqu'à ce que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Point. Et là, 2 minutes après, j'étais baptisé du Saint-Esprit. C'est à côté de l'abattoir, je me rappelle. Mais parce que je crois que si on demande à Dieu, pour lui, c'est sûr que si on ne demande que par intérêt, il y a un truc qui ne va pas. Mais si on demande pour sa gloire, si vous demandez le salut de vos enfants, si vous demandez des choses qui contribueront à ce que le royaume de Dieu grandisse, ces poutres-là, il ne faisait pas des poutres pour, je ne sais pas, pour lui. Il faisait des poutres pour le royaume de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pour que l'œuvre de Dieu grandisse. Si vous faites quelque chose pour Dieu, vous pouvez vous attendre à l'aide de Dieu. Alléluia. Si vous pensez qu'à vous, d'ailleurs, la Bible dit clair, on l'a entendu dans la prophétie, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous n'aurez même pas besoin de le demander. Ça, il vous le donnera. Mais il y a des choses, on doit les demander. Seigneur, tu vois, c'est tombé là. Ça fait 3 mois, j'ai négligé ma vie spirituelle. Ça fait 3 mois, ça fait 3 ans. Ça peut durer depuis combien de temps un problème? Combien de temps on peut faire durer un problème? Au fait, est-ce qu'au bout de quelques années, il y a prescription? Comment ça marche dans le royaume des cieux? Ça peut durer très longtemps. Il y a un verset dans Ésaïe 64, il dit « Le péché, nous en souffrons longtemps ». Moi, c'est un verset qui m'a effrayé. « Le péché, nous en souffrons longtemps ». Ça veut dire quoi? Que tant qu'il n'est pas réglé, eh bien, on en souffre. Mais dès qu'il est réglé, par contre, dès qu'il est réglé, c'est terminé. Gloire à Dieu. Alors si le Seigneur vous parle, eh bien dites-le, il y a ça. J'ai de l'amertume encore contre cette personne. Eh bien, réglez-le. Ça ne coûte rien d'envoyer un texto, franchement. Oui ou non? Ça coûte quoi de prendre son portable ? Je te demande pardon pour ce qui s'est passé entre nous il y a 5 ans. Pardon. Quand vous enverrez le texto, Dieu bénira. C'est comme ça. C'est comme ça. Heureusement que Dieu ne nous fait pas attendre. C'est comme ça. Où est-il tombé ? Souviens-toi d'où tu es tombé. Dieu est un Dieu de miracles. À la croix, la grâce, elle coule. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On ferme les yeux. Fermez les yeux, mes frères et sœurs. Fermons les yeux. Je vous rappelle que lorsque nous avons les yeux fermés, écoutez bien, mes frères et sœurs, Dieu est le Dieu du visible. Dieu est le Dieu de l'invisible. Alléluia. Dieu est le Dieu du temporel. Dieu est le Dieu de l'éternel. Il est tout puissant. Et nous devons jamais oublier le surnaturel dans notre vie. Pour quelqu'un, peut-être, une sœur priait tout à l'heure pour le Centrafrique. Ma sœur, tu peux te tenir à genoux. Dieu agira au Centrafrique. C'est comme ça. Il est le Dieu tout puissant. Lorsque la Syrophénicienne est venue complètement dans la douleur à cause de la possession de sa fille, elle a dit « Pitié de moi, ma fille est possédée ». Elle est restée à ses pieds et sa fille a été délivrée. Je ne sais pas où elle était, sa fille, si elle était à 2 km. Jusqu'à combien de mètres peuvent porter les prières du Seigneur ? Moi, je crois qu'elles peuvent porter partout dans le ciel et sur la terre. Si Dieu dit à un ange de vous secourir, dans la fraction de seconde qui suit, l'ange vous secourt. Il est le Dieu du surnaturel. Il fait remonter le fer. Il bénit les hommes qui sont honnêtes. C'est l'honnêteté qui plaît à Dieu. Ce n'est pas la connaissance par des versets de l'Écriture. Ne pensez pas parce que quelqu'un connaît 300 versets par cœur qu'il est spirituel. Quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui est honnête. Si vous venez pour la première fois, vous pouvez être béni ce soir. Même si vous connaissez rien, mais Seigneur, je suis honnête. Je viens à la croix. Que le bois soit plongé dans ma vie. Que la croix soit mon expérience, parce que la croix vous amènera à la repentance, à la conversion. La croix vous amènera à la nouvelle naissance. La croix nous amènera à l'obéissance, à la vie. Oui, c'est à la croix que la grâce coule. Alléluia. Prions quelques instants. Et si Dieu vous montre quelque chose pendant ce moment où je prie, ou si Dieu vous a montré quelque chose pendant la prédication, ne l'ajournez pas, ne dites pas « demain ». Envoyez le texto, faites-le de suite. Envoyez le mail, faites-le de suite en rentrant. Téléphonez, faites-le de suite, ça vous prendra une minute. Mais la minute qui suivra, la bénédiction viendra. C'est comme ça. Notre Père, nous te remercions de nous avoir laissé ta parole. Nous te remercions pour la croix. Et nous te remercions pour le surnaturel de la croix. Chaque fois que ce bois a été jeté dans un cœur, le miracle a eu lieu. Et ce soir, nous voulons exactement vivre ou revivre ces choses, à savoir que le bois, la croix ramènera toujours la faveur, la grâce. Comme cette eau est devenue douce, tu ramèneras la douceur dans un cœur. Comme le fer est remonté, alors que c'était impossible, tu ramèneras ce qui est impossible humainement. Oui, tu es le Tout-Puissant et nos yeux sont fixés sur toi. Et ce que nous avons chanté tout à l'heure, nous voulons le vivre vraiment, même si c'est un simple verset de l'Écriture, d'avoir toute notre foi en toi. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.